DW. Économie et développement. C'est un fruit emblématique des savanes africaines. Une ressource naturelle à la fois nourricière, cosmétique et stratégique. Le karité, souvent surnommé l'or des femmes, était récemment au cœur d'une conférence marquante à Cotonou. La capitale béninoise a accueilli pour la troisième fois la conférence mondiale du karité, réunissant des acteurs de tous les continents. Le thème, l'avenir du karité, créer un commerce gagnant-gagnant. Comment renforcer la transformation locale, garantir de meilleurs revenus aux collectrices ou encore répondre aux exigences de durabilité et aux pressions du marché mondial? Autant de préoccupations que nous aborderons en seconde partie de ce magazine. Le temps de faire un tour en Centrafrique. Un fonds national de garantie et d'investissement, c'est la solution adoptée par la République centrafricaine pour faciliter l'accès au crédit et réduire les risques pour les banques commerciales. Une bouffée d'oxygène pour les opérateurs économiques locaux, désormais rassurés du soutien de l'État. La création de ce fonds s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2024-2028 et a été lancée officiellement le 21 mai 2025. Jean-Fernand Quenan nous en parle depuis Bangui.
Nous sommes dans le 4e arrondissement de Bangui. Ici, plusieurs entreprises de BTP s'activent à la construction de collecteurs d'eau. Dans cette partie de la capitale, comme dans bien d'autres localités du pays, la population exprime son exaspération face à la lenteur des travaux. Hubert, habitant du quartier Mandaba.
L'aménagement des routes et des collecteurs représente un progrès important pour notre sécurité face aux inondations. Il est cependant regrettable que l'exécution des travaux manque de célérité.
Le problème, certaines dispositions des marchés publics exigent des entreprises qu'elles préfinancent les travaux. Or, ces dernières se heurtent à la réticence des banques à leur accorder des crédits, même en cas de marché attribué. Junior est un entrepreneur.
Ici en Centrafrique, les banques ne donnent pas de crédits. Même un marché en main, il faut se battre. Cela rallonge les délais, ça peut nuire à la réputation de notre entreprise. Un fonds de garantie serait un véritable appui.
Jusqu'ici, l'absence d'un fonds national de garantie et d'investissement constituait un handicap majeur pour les PME et PMI. Pour y remédier, le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, a lancé un fonds doté de 10 milliards de francs CFA, dont 3 milliards apportés par l'institution internationale. Mais selon Modibo Camara, expert du cabinet A2F Consulting, plusieurs obstacles subsistent.
Le plus grand problème, c'est le manque de formalisation. Et ça, c'est un des aspects où le gouvernement a différents projets composants en place pour supporter cela. Du point de vue du fonds de garantie, en fait, le fonds de garantie est un instrument idéal pour faciliter cette transition, pour aider, pour opérer dans des situations comme telles où les risques sont un peu plus élevés parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur l'état financier des institutions.
Du côté de la Banque mondiale, on estime que ce mécanisme de garantie pourrait véritablement relancer l'économie. Guido Rurangwa est le représentant de la Banque mondiale en Centrafrique.
Un pays, pour se développer, a besoin d'un secteur privé dynamique. Or, nous savons qu'en RCA, la plupart des entreprises sont des PME. La plus grande contrainte au développement des PME en RCA, c'est l'accès au crédit. Ce fonds de garantie qui a été créé vient combler ce déficit de crédit. Donc, les entreprises auront plus accès au crédit et cela va les redynamiser. Cela va créer de l'emploi, cela va créer de l'investissement supplémentaire et cela va faire en sorte que la RCA se développe davantage.
Le gouvernement affiche son optimisme, même si la mise en œuvre du fonds prendra du temps. Le ministre centrafricain des Finances et du Budget y voit un tournant économique majeur. Hervé Ndoba.
Cet outil que nous n'avions pas dans notre paysage économique et financier va permettre en réalité de réduire le risque que prend donc les banques commerciales pour permettre d'octroyer des crédits, des facilités de financement à nos PME, TPE, PMI.
Mais le secteur bancaire reste prudent, comme le souligne Ali Chaibou, directeur national de la BAC.
Les dernières statistiques du Comité national économique et financier de la République centrafricaine font ressortir un taux effectif global des crédits de plus de 17%. Et donc ces chiffres sont encore élevés lorsqu'on le compare par rapport à la moyenne sous-régionale. parmi les raisons évoquées par les banques commerciales, c'est surtout les facteurs de risque. C'est pour ça qu'il est important aussi de dire avec la mise en œuvre effective de ce Fonds national de garantie, nous devons suivre l'évolution de tous les taux de crédit. Il faudra absolument que ce taux soit revu à la baisse, étant donné que le risque sera atténué par le Fonds national de garantie.
Le lancement de ce fonds pourrait aussi inciter de nombreuses entreprises du secteur informel à se formaliser pour bénéficier d'un meilleur accompagnement et espérer un véritable retour sur investissement.
Un reportage de Jean-Fernand Quenant, notre correspondant à Bangui, qui parlait à l'instant du fonds de garantie et d'investissement comme mécanisme financier pour relancer les petites et moyennes entreprises en République centrafricaine. DW. Je l'évoquais en introduction, le karité est un arbre précieux, endémique de l'Afrique de l'Ouest, dont les fruits font vivre des millions de femmes rurales. Souvent surnommé aussi « abrabeur », il était récemment au cœur des discussions des acteurs mondiaux de la filière, venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, pour réfléchir au Bénin autour du thème « L'avenir du karité, créer un commerce gagnant-gagnant ». La transformation locale de cette importante matière première est souvent présentée comme un enjeu majeur. Mais où en est-on à l'échelle régionale, notamment en Afrique de l'Ouest, dans le renforcement des capacités industrielles locales ? Armand Kengbo, secrétaire permanent de l'interprofession karité au Bénin.
Vous savez, le karité, on ne le trouve pas en Europe. Il n'y a pas le karité aux États-Unis, il n'y en a pas en Asie. C'est seulement en Afrique de l'Ouest et quelques pays de l'Afrique de l'Est, parce que c'est une espèce qui est liée à la terre ouest-africaine. Donc, les conditions climatiques sont vraiment favorables. Et comme elle est à croissance très lente, elle peut aller jusqu'à 15 à 20 ans avant d'entrer en production. Donc, c'est très difficile de le reproduire. C'est pour cela que c'est seulement dans cette zone que nous avons la ressource karité.
Et pourtant, pendant longtemps, l'Afrique n'a été qu'une simple exportatrice d'amandes brutes, sans réelle maîtrise de la chaîne de valeur. Une tendance que plusieurs pays commencent à inverser, notamment en Afrique de l'Ouest.
Nous avons beaucoup servi, par les deux dernières décennies, de sources d'approvisionnement des industries au niveau international dans les autres pays européens et autres. Depuis deux années déjà, vous allez constater l'année dernière, il y a eu des décisions qui ont été prises au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire et puis au Togo pour interdire l'exportation des amandes de karité de leur pays afin de sauvegarder l'approvisionnement des industries locales. Ça signifie que ces pays se sont réveillés un peu et ont commencé par implanter sur leur territoire des industries. Comme le Bénin aussi, avec le projet de la G10 au niveau de Glodibé, qui est vraiment un centre d'excellence d'industrialisation de notre pays et qui touche aussi la filière karité. Donc nous sommes dans cette lancée également.
Mais si le karité est aujourd'hui très convoité sur les marchés internationaux, avec une demande en forte hausse, cela profite-t-il vraiment aux producteurs africains, principalement aux femmes ? Pas si sûr. Selon Armand Kengbo.
On a ouvert le marché du karité de commercialisation courant août. Et les prix se sont envolés à un niveau jamais rencontré depuis que la filière existe. Parce qu'on est allé jusqu'à des prix de 700-750. C'est incroyable, du jamais vu. Sinon, généralement, on tournait autour de 200-250, 300. Mais il y a des facteurs qui expliquent. Vous avez vu, j'ai dit que le Togo, le Mali et puis la Côte d'Ivoire ont fermé leurs frontières en termes d'exportation pour sécuriser l'approvisionnement interne. Tous les exportateurs qui étaient venus, les expatriés qui étaient venus s'approvisionner dans ces pays, se sont retrouvés dos au mur. Le seul pays qui était ouvert, c'était le Bénin, globalement, parce que le Nigeria, il peut pas. Donc, ils se sont rabattus sur le Bénin. C'est ce qui a fait qu'on a eu l'envolée des prix, en réalité. C'est juste conjoncturel.
Résultat, des prix irréguliers et une chaîne de valeur encore déséquilibrée. Car les femmes, premières actrices de la filière, restent souvent les grandes oubliées des bénéfices générés. Mais comment changer la donne ?
Qu'on puisse s'assurer que le prix qui a été décrété pour prendre par exemple le kilogramme d'amande de karité, que ce prix soit appliqué à la femme rurale qui est dans une coopérative lointaine de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, il faut trouver un mécanisme de contrôle interne qui puisse peut-être dire à la femme, tu peux livrer directement tes produits à telle industrie, voici le prix. Très tôt. Si ce n'est pas fait très tôt, la femme sera dos au mur parce qu'elle a besoin de ressources. Vous voyez, il y a Tabaski qui approche et autour. Mmh. Elle va libérer les produits qu'elle a simplement parce qu'elle veut manger, elle veut s'habiller, elle veut habiller les enfants et autres. La rentrée aussi est là. Donc, il faut que ça soit plus tôt que déjà le mécanisme précise toute coopérative ou même un groupement d'un village non enregistré qui a des amendes peut livrer ça. Voilà le prix. Et qui est quand même des points focaux dans ces zones-là où on peut venir, ou des magasins de centralisation où ces produits peuvent être amenés et que la femme prenne l'argent, c'est-à-dire le prix qui a été décrété là, qu'elle reçoive ça dans sa main.
À ces enjeux sociaux s'ajoutent les opportunités industrielles. Car le beurre de karité, au-delà des crèmes et des savons, est aussi un ingrédient de plus en plus prisé dans le chocolat.
Je pense que c'est au plus 5% en termes de beurre de karité à mettre dans la chocolaterie. Donc, ce facteur de légalisation qui a été apporté au niveau européen a créé un boom automatique. Ça veut dire que le karité commence à être utilisé maintenant, au vu et au su de tous, dans la chocolaterie. Et ce n'est pas hier, ce n'est pas il y a 5 ans. Ça a commencé depuis plus de 10 ans. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Le beurre de karité se retrouve dans le chocolat qu'on consomme. Maintenant, c'est de s'assurer que nous sommes capables quand même de satisfaire ce marché.
Cette réalité ouvre donc de nouvelles perspectives pour la filière, à condition d'assurer une qualité constante, des normes respectées et une capacité de production suffisante. Karité incarne un potentiel unique pour les économies africaines et pour l'autonomisation des femmes rurales. Mais pour que cet or profite réellement au continent, il faudra transformer localement, structurer les marchés et repenser la justice économique au cœur de la chaîne de valeur. Merci à Armand Kengbo, expert et secrétaire permanent de l'interprofession Karité au Bénin. Merci à vous également d'avoir suivi ce magazine dont c'est déjà la fin. Vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site www.dw.com/français. C'était Rodrigue Guezodia au micro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'économie et développement. D'ici là, prenez soin de vous.